Alléluia. Mais que Dieu soit béni, mes bien-aimés. Je suis heureux ce matin de ce que notre Dieu permet que nous soyons dans sa présence. On va nous occuper de notre âme. Et puis, on va regarder dans les Saintes Écritures ce que notre Dieu veut que nous puissions considérer ce matin. Alors, nous allons faire une première lecture dans les Saintes Écritures. Cela va de soi. Et cette première lecture va nous amener à regarder dans Hébreux le chapitre 12, les versets 28 à 29. Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 28. Notre Seigneur Jésus est au milieu de nous. Amen. Jésus est au milieu de nous. Alléluia, il est là ce matin notre maître et nous sommes en sa présence. En sa présence, nous voulons que ces moments où Dieu permet que nous puissions être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ soient des moments bénis pour chacun d'entre nous, mais au travers desquels aussi Dieu notre Père sera glorifié dans tout ce que nous ferons. Dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos pensées, que Dieu en Jésus-Christ ce matin soit glorifié. Amen. Alors, j'ai dit Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 28. Ça y est, vous êtes prêts? D'accord, on y va. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons, dites avec moi, notre reconnaissance à Dieu. Montons notre reconnaissance en rendant, pardon, à Dieu un culte qui lui soit agréable. Particularité, avec piété et crainte. Avec piété et crainte, car le Saint-Esprit nous rappelle qu'en notre Dieu est aussi, notre Dieu est aussi un feu dévorant. S'il est aussi un feu dévorant, il est en même temps un Dieu juste, il est en même temps un Dieu saint. Alors tous les critères qu'on pourrait citer concernant Dieu notre Père nous amènerait sur la réalité et la définition que nous pourrions donner au mot précepte. Les préceptes, d'après les Saintes Écritures, ce sont les déclarations de Dieu concernant sa propre nature et ses desseins. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu est un Dieu de paix. Et Ce matin, il va nous amener sur un terrain qui est important à ses yeux et qui malheureusement quelquefois, malgré le fait que nous sommes entrés dans le plan de salut, eh bien il arriverait que, non pas que nous le négligerions, c'est pas ça, mais que nous ne donnons pas assez d'importance à ce que Dieu va nous rappeler ce matin. La vie chrétienne, pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu, ou dans la vie chrétienne, il y a des choses auxquelles Dieu attache, une grande importance et qui découlent en quelque sorte de son plan, de son dessein et de sa volonté pour nos vies comme ses enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur Gentil? Alors, ce que je veux dire, c'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, et le verset 16 qui va nous y introduire. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, au verset 16. Vous savez, à Thessalonique, quand l'apôtre était en mission, l'apôtre Paul était en mission, à Thessalonique, Dieu a fait un travail extraordinaire au travers son serviteur. Son ministère n'a pas été très 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 long dans cette ville de Thessalonique. Mais l'espace de 3 sabbats, mais l'apôtre a prêché en quelque sorte à amener les grandes doctrines de la foi chrétienne, de telle manière qu'il y a eu un travail merveilleux qui a été fait, et c'est de cela que les pensées ont été communiquées, et particulièrement dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 16. L'apôtre commence par dire aux Thessaloniciens, convertis à Jésus-Christ, débarrassés de l'idolâtrie, parce que n'oublions pas que Thessalonique est une ville côtière, avec un grand brassage de culture, d'ethnie, de race, et surtout, par conséquent, beaucoup d'idolâtrie. Mais quand l'évangile est arrivé, Dieu a fait un travail merveilleux. Amen. Et c'est de ça qu'il veut parler lorsqu'il dit aux Thessaloniciens, fraîchement convertis à Jésus-Christ, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Et voici qu'il rajoute, verset 18, rendez grâce en toutes choses. Et puis, voici ce qu'il rajoute après pour montrer l'importance de l'action de grâce, car c'est à votre égard, dites avec moi, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et puis, il conclut au verset 19, « N'éteignez pas l'esprit. » Alors, frères et sœurs en Christ, comment nous pourrions définir ce que nous venons de lire? Où beaucoup d'endroits dans le chapitre 5, eh bien, nous recevons, nous lisons ce qui ressemble fortement à une série d'exhortations données par l'apôtre aux Thessaloniciens, dont ce matin nous sommes les bénéficiaires, puisque c'est nous qui le lisons. On n'est pas Thessaloniciens, on est Parisiens, mais la parole de Dieu, elle est pour nous ce matin. Alors, là, quel pasteur gentil ? Rendez grâce en toutes choses. Et puis il mentionne, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, la volonté de Dieu ce matin pour moi, c'est que je puisse rendre grâce. Rendre grâce à Dieu. Donc, nous sommes placés sur le terrain de l'importance aux yeux de Dieu de l'action de grâce. Oh, ça a l'air de rien, frères et sœurs en Christ. Mais je crois que la même volonté que Dieu a manifestée, qui a été révélée par l'apôtre Paul à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3, où il est dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur, c'est Jésus-Christ, homme qui s'est livré lui-même en rançon pour tous. » Donc la même volonté de Dieu qui veut que je sois sauvé, c'est la même volonté qui se manifeste que quand je suis devenu son enfant, quand je suis repenti, converti, né de nouveau, engagé sur le chemin de la persévérance pour marcher avec mon Seigneur Jésus-Christ, je puisse prendre du temps aussi pour lui rendre grâce. Oh, je sais que quand je vous dis ça, je me dis, mais pasteur gentil, je le fais déjà. Oui, tu le fais déjà. Mais Dieu veut porter une plus grande importance à ta vie comme son enfant dans la réalité de l'action de grâce comme une volonté qui est la sienne, mais qu'il veut entendre de ta bouche. Et s'il entend de ta bouche, c'est parce que tu le portes dans ton cœur. Gloire à Dieu. Puis, une autre lecture, toujours dans la même tranche de l'action de grâce. Où nous allons voir, frères et sœurs en Christ, comment l'apôtre, dans une autre église, celle de Colosse, donc c'est aux Colossiens, au chapitre 3 et au verset 17, adresse ce qui ressemble à un rappel. Voulez-vous que nous le prenions un peu plus haut, s'il vous plaît? À partir du verset 14, je pense que ce serait bien. Verset 14, Colossiens 3, 14. Mais par-dessus toutes ces choses, dit l'apôtre, revêtez-vous de l'amour. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Il parle de l'amour comme un revêtement. Or, un revêtement, ça se porte et ça se voit. N'est-ce pas? Bien. Alors, allons plus loin. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, dites avec moi, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Puis il continue pour montrer ce qui va produire autant la paix que la reconnaissance, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Là, dites-moi sur quel terrain le Saint-Esprit nous amène. Que la parole de Christ demeure en vous de toute sa richesse. Eh bien, nous amène sur le terrain de la connaissance. Bien oui. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Verset 17. Et quoi que vous fassiez, dites avec moi, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout, en tout ce que je fais, je dois rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que je le fais tout le temps? Malheureusement, je dois dire que non. Mais à partir du moment que Dieu m'enseigne, je vais changer mon fusil d'épaule. Car si le Saint-Esprit insiste là-dessus, comme étant ce qui déroule de la volonté de Dieu, c'est quelque chose que Dieu veut qui, dans mon cœur, prenne sa place, son importance, et que désormais, je change ma manière de fonctionner, d'agir devant sa face, non seulement quand je viens lui rendre le culte, mais quand je suis à la maison, quand je suis dans le jardin, quand je suis au supermarché, quand je conduis ma voiture, rendez grâce en toutes choses. Ce n'est pas le pasteur gentil qui le dit, c'est les Saintes Écritures. Moi, je suis simplement là pour rapporter ce que Dieu dit. Allons plus loin. Et voyons notre Seigneur Jésus-Christ pour commencer dans le cadre de l'action de grâce. Jésus, notre Seigneur, vivait en communion avec le Père. Il y avait une relation intime entre le Père et le Fils. Et nous voyons Jésus en action. Par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 40, il est arrivé à Béthanie parce qu'il y a une situation de souffrance. Et cette situation de souffrance est accompagnée d'incompréhension dans le cœur de certains. D'autres maintenant se laissent aller apporter leur propre jugement. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire que cet homme ne meure point, etc. Les sœurs, dans la souffrance, leur bouche s'ouvre et de l'abondance de leur cœur, leur bouche parle. Mais quand le maître entre en action et prend les choses en main, Marc va entendre cette déclaration dans la bouche de Jésus. Marc, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Et quiconque Marthe vit et croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela, Marthe? La réponse demande, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Puis, le Seigneur va avancer un peu dans le plan de Dieu qui se déroule au travers de sa présence. Voici, après avoir demandé, où l'avez-vous mis ? Seigneur, mais ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, il sent déjà. C'est logique, la corruption du corps a commencé. Mais Jésus dit, t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Puis arrivé aux abords du sépulcre, voici que notre Seigneur Jésus va s'adresser au Père. Que dit-il ? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc il remercie le Père de l'avoir exaucé avant même que rien ne se fasse. Il va rajouter, pour ma part, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai agi ainsi afin que eux croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va dire, Lazare, sors. Et le mort sortit enveloppé de linge, ce qui était la coutume de l'époque. Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Il a rendu grâce au Père. Lorsqu'il multiplie les pains dans l'évangile de Jean chapitre 6, par exemple, les versets 10 et 11, le même processus. Une grande foule est réunie et la situation est assez particulière. Jésus commence par demander à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? Et puis la Bible nous dit que Jésus dit cela afin de l'éprouver parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Est-ce que vous croyez que Jésus sait toujours ce qu'il va faire ? Il sait toujours ce qu'il va faire, mais quelquefois, il prend une attitude pour pouvoir éprouver celui qui est en face de lui, pour savoir dans sa situation quel est son degré de connaissance, son degré de foi. Mais oui, s'il l'éprouve, c'est pour voir c'est un peu qu'est-ce qu'il a dans le ventre, enfin, dans le cœur, si vous préférez. L'épée qu'on pourrait avoir pour tant d'argent ne serait pas assez pour que cette grande foule ait à manger. Jésus sait qu'il va multiplier les pains. Comme il savait ce qu'il allait faire lorsqu'il partait en Béthanie, il savait que Lazare était déjà mort. Mais il dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Frères et sœurs en Christ, tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. C'est pour me secourir, mais c'est pour glorifier son nom dans ma vie. Alléluia. Des fois, on n'est pas toujours conscient de cela. Dès que survient une difficulté, obligatoirement, ce qui est humain aurait tendance à prendre le dessus. Et quand ce qui est humain prend le dessus, c'est l'affolement qui arrive, on est abattu, le découragement n'est pas loin, et on commence maintenant à avoir une attitude qui montrerait ou qui semblerait montrer que Dieu est tellement loin, qu'il est non seulement tellement loin, mais qu'il est sourd à nos cris, à nos appels. Non, Dieu n'est jamais ni en avance ni en retard, il est toujours à l'heure. Mais c'est moi qui ne suis pas à son heure. J'ai des yeux, je vois, mes sens naturels sont rapidement en éveil, mon oreille entend, et après, hop, j'ai une attitude en rapport avec ce que mes yeux ont vu ou ce que mes oreilles ont entendu. Mais quand Dieu arrive, il commence par me dire, Claude ne craint rien. Mais oui, ses voix ne sont pas mes voix. Parce que lui, il a une capacité qui quelquefois est au-dessus de mes pensées, il crée des circonstances. Et après avoir créé des circonstances, il va diriger les circonstances qu'il a créées pour les amener vers l'accomplissement de son plan. Et puis, dans tout ce que je vous dis là, quelquefois, nous sommes au centre de ce que Dieu veut faire. Mais une fois qu'il a agi et que nous avons compris, excusez-moi du thème, le pourquoi du comment, alors nous sommes apaisés, tranquillisés. Et vous savez ce que nous faisons après ? On lui rend ? Amen. Des fois, il semblerait que Dieu tarde à intervenir. Oui, ça c'est moi qui le pense. Et vous savez ce qui est merveilleux ? Dieu nous connaît tellement. Quelquefois, même si je pense qu'il est en retard, il ne me dit pas qu'il est en retard. Il me laisse. Mais en me laissant, il regarde mon attitude. Regarde comment je fais. Et s'il voit que dans cette attitude-là, je suis à ses pieds, je m'humilie, je le cherche. Comprenant comme Jacob, l'attitude de foi. Et une foi qui m'amène à être déterminé. Où il a dit, je ne te quitterai pas tant que tu ne m'as pas béni. Il avait dit, il était conscient que la bénédiction dont il avait besoin, c'est Dieu qui l'avait. Alors il est resté là. La lutte a été féroce, mais à la longue, il a triomphé. Comment a-t-il triomphé? Après que l'ange qui combattait avec lui l'eut frappé à l'emboîture de la hanche. Des fois, dans certaines luttes, Dieu permet que la vieille nature prenne un coup, s'humilie. Et après, quand la vieille nature s'est humiliée, Dieu fait qu'il y ait un développement dans l'homme nouveau à l'intérieur. Alléluia. Mais écoutez, ces voix ne sont pas nos voix. Hein? Ces pensées ne sont pas nos pensées. Donc, on continue. On était à quoi? Thessaloniciens, c'est ça? Non. On avait déjà passé Thessaloniciens, on était à l'évangile de Jean. Les actions de grâce de Jésus. Voilà, maintenant on regarde Jésus après sa résurrection. Donc là, on a vu Jésus dans son ministère. On pourrait même voir avant d'aller... Après sa résurrection, on pourrait même s'arrêter lorsqu'il institue la Sainte Cène. Dans l'évangile de Matthieu, voyant Jésus prit du pain et il rendit grâce. La même chose, il va le faire lorsqu'il prend la coupe et il rend grâce. Mais là, après sa résurrection, voici qu'il rencontre deux disciples, appelés communément dans l'évangile de Luc chapitre 24, les disciples d'Emmaüs. Je mine avec eux, connaissez comme moi le récit. Et puis à un moment donné, dans l'évangile de Luc, vers la fin du récit, la Bible nous dit que, verset 28, Luc 24, verset 28, lorsqu'il fut arrivé du village, près du village où ils allaient, je lis communément Emmaüs, il parut vouloir aller plus loin. Donc Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressaient, ils ont pressé Jésus en disant, reste avec nous. Reste avec nous parce que ta présence, elle est bonne pour nous. Et écoutez, quand quelqu'un comme Jésus chemine avec vous et qu'au départ votre cœur est froid, triste à cause de la situation, eh bien, qui a jeté sur le pays de grandes répercussions que beaucoup n'ont pas compris, même les disciples de Jésus n'ont pas compris. Et la preuve, ceux d'Emmaüs, ils étaient tristes. Et quand Jésus chemine avec eux après sa résurrection, il leur pose la question, mais de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si tristes? C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Mais es-tu le seul qui demeure à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé? Et tu n'es pas un étranger dans le pays. Tu sais bien qu'en ce qui concerne Jésus de Nazareth, ce qui est arrivé, nous espérions, etc., que ce serait lui. Bon, avec ça, on ne sait pas. Et bon, il est vrai que quelques femmes nous ont dit, « Ah, frères et sœurs, Christ, comme notre esprit est fertile en spéculation quand nous manquons de connaissances. » Alors Jésus va les aider. Jésus va les aider. Et comment il va les aider? Il va les aider à comprendre. C'est ce qui est ma vie avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus se met toujours au niveau de ma compréhension, mais pour la faire grandir et se développer. Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il rentre dans sa gloire? Et puis commençant par les Saintes Écritures, Moïse, et les prophètes, Jésus leur a expliqué dans l'Écriture tout ce qui le concerne. Et au fur et à mesure que Jésus leur expliquait ce qui le concernait, Dites avec moi, dans l'Écriture, le camp commençait à se réchauffer. Donc nous comprenons, d'après l'attitude de Jésus, que lorsque le prédicateur, en fonction, avec l'onction de l'Esprit, nous explique l'Écriture, le Saint-Esprit commence à réchauffer le cœur. Alléluia. Le cœur commence à se réchauffer. Mais ce n'est pas tout. Le cœur commence à se réchauffer. Le cœur continue à se réchauffer. Pourquoi ? Par l'explication de l'Écriture. Jusqu'à ce que le cœur qui commence à se réchauffer, qui continue à se réchauffer, devient carrément brûlant. Nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous lorsqu'en chemin nous allions et qu'il nous expliquait l'Écriture ? Mais voici ce qui va se produire après que le cœur ait été réchauffé. Donc, ce que je vous ai dit précède ce que nous venons de lire. Mais ils le pressèrent, disant, « Reste avec nous, car le soir approche, et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, Jésus prit le pain. Et après avoir... il prend le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Jésus n'a pas pris le pain, il l'a rompu. Il a pris le pain, il a rendu grâce. Et après, il a rompu le pain. Et le leur donna. Alors, quel résultat ça a produit, verset 31? Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Au départ, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Une leçon s'en dégage. C'est comme si Jésus voulait le faire comprendre désormais. Vous n'avez plus besoin de me voir physiquement. Vous allez devoir marcher non pas par la vue, vous allez devoir marcher par la foi. Mais avec la vue et la foi, vous avez besoin aussi de vous appuyer sur l'Écriture. Qu'est-ce que nous faisons ce matin? On marche par la foi. Que personne ne me dise « j'ai vu Jésus physiquement ». Nous marchons par la foi. Le témoignage de l'Écriture nous est pleinement suffisant. Mais nous marchons aussi avec l'Écriture. Frères et sœurs en Christ, nous sommes dans un temps où malheureusement, nous devons veiller à garder l'Écriture. Nous devons veiller, frères et sœurs en Christ, à garder l'Écriture. Parce qu'il y a trop d'évangélistes modernes qui, soi-disant, se lèvent, mais fort souvent, ils vous amènent dans des directions qui sont fort souvent des hérésies évangéliques, qui n'ont aucun fondement biblique. Et ce qu'ils prêchent, vous ne le trouverez jamais conforme à l'Écriture. Mais nous, Dieu a permis que nous soyons enseignés des années par son cher serviteur, le pasteur M. Barma. Et nous sommes au rang de ceux qui, par l'intelligence renouvelée, avons compris l'importance de ne jamais déplacer les bonnes anciennes que nos pères ont plantées. Le pasteur Barma, c'est un homme avec qui j'étais très lié. Mais ce qui nous liait, c'est l'Écriture. Merveilleux Père spirituel, qui depuis le jour que je suis venu à l'Église, a toujours enseigné la parole, l'Écriture. Qu'on est taxé de fondamentaliste, de ceci ou de cela, on n'a que fait l'Écriture. Et quand on est dans l'Écriture, Dieu nous éclaire dans l'Écriture. Dieu nous enseigne dans l'Écriture. Dieu nous instruit dans l'Écriture. Nous exhorte dans l'Écriture, nous édifie dans l'Écriture, de telle manière que la parole de Dieu pour nous, elle prend place dans le cœur, parce que vous savez, quand vous êtes attaché à la parole de Dieu, elle s'attache à vous. Hein. Et une fois qu'elle est attachée à vous, vous vous retrouvez avec une ossature spirituelle telle que vous n'êtes pas d'abord au rang de ceux qui se laissent facilement emporter par les vents de doctrine, mais vous n'êtes pas non plus au rang de ceux qui se laissent ébranler. En quelques pensées qui sortiraient dans le sein doux,
l'Écriture nous est pleinement suffisante.
Moi, dans l'Écriture, moi, je nage comme un poisson dans l'eau. Je suis à mon aise. Pas besoin de faire d'efforts, je n'ai qu'à croire ce que Dieu dit. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, frères et sœurs, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, hein. C'est parce que Jésus dirige l'Église. Et quand il dirige l'Église, il a besoin que nous puissions nous enraciner, nous fonder dans sa parole. Voyez avec moi, frères et sœurs, en Christ, tiens, un récit qui va accompagner ce que je vous dis. Et là, c'est notre Seigneur Jésus qui est concerné. Donc, c'est le récit de l'Évangile de Luc, chapitre 17, à partir du verset 11. Oh, je ne sais pas si le jour ou le temps de vous emmener dans l'Ancien Testament, que nous puissions voir un petit peu comment Dieu avait entrevu ce que nous partageons ce matin et les leçons spirituelles qui en découlent. Peut-être que je vais y aller à volo, si je puis dire. Je n'ai pas le temps de tout donner ce matin, mais allons plus loin. Évangile de Luc, chapitre 17, verset 11. J'espère que je ne me trompe pas. Hein. Non, c'est bien ça, c'est bien ça. Jésus se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Notez bien, Jésus se rend à Jérusalem, mais ce jour-là, il est passé par la Samarie. Or, n'oubliez pas que pour l'époque, Juifs et Samaritains n'ont pas de... Voilà, mais Jésus est passé par la Samarie. Est-ce par hasard? Il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu fait. Regardez. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Soyez guéris, soyez purifiés. » Non, de rien de tout ça. Simplement, il donne une parole. Quelle est cette parole? Allez vous montrer au sacrificateur et regardez ce qui s'est produit. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Donc Jésus donne une parole, allez vous montrer au sacrificateur. Jésus ne leur a jamais parlé de guérison, hein, ni de purification, mais il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et il arriva que pendant qu'ils y allaient, la parole de Jésus les a accompagnés, mais la parole de Jésus s'est accomplie en eux. Regardez la suite. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, où? Ah, au pied de Jésus. La parole avait fait son travail, mais puisqu'il avait vu le résultat produit par la parole, alors il revenait au pied de celui qui avait dit la parole. Combien de paroles Jésus a dit sur ta vie? Se sont accomplies. Et qui fait qu'aujourd'hui, tu es vivant. Tu es debout, tu es en bonne santé. Dieu, jusqu'à aujourd'hui, a renouvelé à ton égard chaque matin ses bontés et ses compassions. Est-ce que tu mérites quelque chose? Non! Alors, tu n'as pas le droit de rester la bouche fermée ce matin en ce qui concerne l'action de grâce qui lui est due. On continue? Bien, allez. Regardons. Il tomba sur sa face au pied de Jésus. Et après, aussitôt il est dit, il lui rendit grâce. Or, je ne sais pas ce qui est sorti de sa bouche, mais ce que je lis, il lui rendit grâce. Il a remercié Jésus pour sa guérison. Et puis le détail nous est donné. C'était un Samaritain, donc un étranger. Les 9 autres, il ne nous a rien dit d'eux. Mais celui-là, celui qui est revenu, Jésus fait à son égard maintenant une remarque par rapport à ce qui suit.
Verset 17.
Jésus, prenant la parole, dit, les dix n'ont-ils pas été guéris?
C'est une très bonne question, Jésus, que tu poses. Mais moi, j'ai la réponse, oui, les dix ont été guéris.
Et Jésus pose la question, une autre question qui va accompagner la première. Et les neuf autres? Les neuf autres, où sont-ils? Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Et puis Jésus continue dans une autre question. Une autre question. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Oui. Jésus lui dit, il lui dit, va, lève-toi, va, ta foi t'a. Ah. Ah, si les neuf autres savaient l'importance de revenir rendre grâce à Dieu, comme nous ce matin, ils entendraient Jésus fait leur éloge. Oui, oui, Jésus a fait son éloge. Et en plus, Jésus lui a donné une parole pour confirmer son salut. Les autres, ils ont été guéris. Mais la Bible ne me dit pas qu'ils ont été sauvés. Vous me suivez toujours, hein?
Mais oui.
Les neuf ont été guéris, mais ils ne sont pas revenus comme le Samaritain. Le Samaritain, c'était un étranger. Mais quelquefois, Dieu trouve de la reconnaissance plus chez les étrangers que parmi son peuple. Vous me comprenez, hein? Voilà, je n'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus, parce que Dieu a un plan de salut, mais lorsque son plan de salut se déroule, même dans la synagogue à Nazareth, quand Jésus a commencé son ministère, ça n'a pas plu à certains. Hein. Lorsqu'il a fait mention de la future accessibilité du salut de Dieu aux nations. Voulez-vous que je vous le rappelle? Je vois que vous ouvrez de grands yeux. Vous voulez que je vous le rappelle ou pas? Oui? Vous n'êtes pas très convaincant, comme j'aime le dire. Hein. Vous voulez que je vous le rappelle ou pas? Mais regardez, ne cherchez pas, hein, je résume. L'évangile de Luc, chapitre 4. Jésus a fait cette belle déclaration, commençant son ministère, dans la synagogue à Nazareth. Et après qu'il fit la belle déclaration, la Bible nous dit que tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Oui, nous avons parlé de l'année de grâce du Seigneur. Jésus ne se laisse pas compter parce que les regards sont sur lui. Mais là, puisqu'il lit dans les cœurs, il va leur dire, certainement me direz-vous, médecin, guéris-toi toi-même ou fais dans ta patrie ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais leur dira-t-il, aucun prophète n'est bien reçu, pas bien reçu dans sa patrie. Et puis, voici qu'il va prendre deux images. Il va commencer par dire, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie le prophète. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Sarepta, Sidon, étranger. Et cependant, c'est là que Dieu a permis qu'une femme veuve nourrisse son serviteur. Puis, une deuxième image. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Que fait-il? Eh bien, il montre à ce moment-là dans la synagogue à Nazareth la future accessibilité du plan de salut de Dieu envers les nations. Vous savez ce qu'ils ont fait dans la synagogue? Ils n'ont pas été contents. Pourquoi? parce que dans leur cœur, Dieu était leur Dieu, un peuple monothéiste. Il n'était pas question que Dieu devienne le Dieu de nations païennes, idolâtres, etc. Mais Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Tiens, une autre image. Pour argumenter la même pensée. Est-ce que vous connaissez Siméon? Siméon était un homme avancé en âge. L'évangile de Luc nous parle de lui. Et la Bible nous dit que Siméon avait été divinement averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Sauveur du monde. Puis, une fois qu'il a été averti par l'Esprit, il a été poussé par l'Esprit pour monter au temple. Quand? Lorsque les parents sont venus présenter l'enfant Jésus selon la coutume de l'époque. Et le voici qui, à ce moment-là, reçoit l'enfant Jésus dans ses bras. Et Siméon est conduit dans une prière prophétique que lui donne le Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Regardez comment il parle. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et en troisième lieu, gloire d'Israël, ton peuple. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi il met Israël en dernier? Parce que Dieu a un calendrier et un plan qu'il poursuit. Donc c'était bien la direction du Saint-Esprit que Jésus garde lorsqu'il dit à ses contemporains, au travers de ces deux exemples, que le salut que Dieu a préparé devant s'accomplir en sa personne, il y aura une branche qui va partir vers les nations. Tiens, voilà une pensée qui me revient encore dans la même direction. Pour nous montrer ce matin combien nous avons de raisons de rendre grâce à Dieu. Vous connaissez, frères et sœurs en Christ, Abraham, notre ancêtre, dans la foi. C'est un homme aussi avec qui Dieu a fait alliance. Mais dans les alliances que Dieu fait avec lui, il commence par entendre dans la bouche de Dieu, « Je ferai de toi une grande nation ». Et la grande nation, c'est Israël, le peuple terrestre. Nous sommes toujours d'accord. Mais à un moment donné, dans une tranche de la vie d'Abraham, Dieu va lui dire, maintenant, lève tes yeux vers le ciel. Et si tu peux compter les étoiles du ciel, ainsi sera ta postérité. Étoiles du ciel, pour lui montrer qu'il y avait une postérité céleste. Mais aussi une postérité terrestre. Et dans le déroulement du plan de Dieu pour sa vie, à un moment donné, vous verrez que Dieu va faire passer la postérité céleste avant la postérité terrestre. Pourquoi? Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il dira que il s'est adressé combien de fois à un peuple terrestre? Mais il a dit, c'est par des hommes aux lèvres balbutiants qu'il allait maintenant en parler. Et au départ, nous, on avait les lèvres balbutiantes. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions sans espérance et sans Dieu. Mais Dieu avait son plan pour nos vies. Moi, Dieu avait un plan pour ma vie comme gens des nations. Étrangers, dignes d'étroits, noyissant les uns les autres, privés de droits de cité en Israël céleste. Mais quand la bonté de Dieu et son amour pour tous les hommes s'est manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais à cause de son amour pour nous. En vertu de sa grâce, nous sommes les objets ce matin. Alors, frères et sœurs en Christ, nous avons de multiples raisons de lui rendre grâce ce matin. Ça va toujours? Tiens, regardez dans Acte 3. Acte 3, versets 1 à 10. Certainement, vous avez vu l'histoire de cet homme, important de naissance, et son importance était si considérable qu'il fallait l'apporter tous les jours à la belle porte du temple afin qu'il demande l'aumône à ceux qui allaient entrer. Acte 3, verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Labelle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc, je ne sais pas quelle était la contrainte de ceux qui étaient obligés de la porter, mais chaque jour, on l'a lu, tous les jours, il fallait la porter. Il y avait du soleil, il y avait du brouillard, il y avait de la pluie, tous les jours, il fallait la porter. Je ne sais pas pour vous, mais peut-être qu'un jour, moi, j'en aurais eu marre. Hein. Ah, écoutez, moi, je suis un être humain. Hein. Ça peut devenir pour moi un fardeau, mais là, il n'est pas question de cela. Tous les jours! C'était pour lui peut-être son seul moyen de subsistance. Être à la porte du temple et demander l'aumône à ceux qui allaient entrer. Mais voilà la suite du récit. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et si j'osais, non pas que je rajoute à l'écriture, mais je dirais, il demanda l'aumône comme d'habitude. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose comme d'habitude. Mais ce jour-là, ce n'était pas comme d'habitude. Et quand Dieu a résolu de faire un travail, de se manifester, de se glorifier, ce n'est pas comme d'habitude. Ça veut dire, lui, il ignorait cela. Pour lui, il attendait une petite pièce. Mais Dieu avait préparé quelque chose de plus grand pour lui. D'où son attitude après l'intervention de Jésus-Christ ce jour-là. Alors, lisez avec moi l'Écriture. S'attendant la fin du verset 5, à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors je me suis laissé aller à penser, mais beaucoup de gens peut-être étaient montés au temple, lui avaient donné une petite pièce, mais personne ne lui avait parlé de Jésus de Nazareth. Ah, donc ce jour-là, ce n'était pas un jour comme les autres. Béni soit le jour où un homme, une femme entend parler de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Permet au Saint-Esprit d'entrer en action pour le convaincre qu'il est un pécheur. Il le fait entrevoir la possibilité d'échapper au jugement et à la condamnation. Pourquoi ? Il lui a été révélé le nom de Jésus de Nazareth. Allons plus loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent. Oh, alléluia. Quand Jésus intervient, les choses changent. Un potent de naissance. Boiteux de naissance, pardon. Un potent de... Oui, c'est la même chose. Boiteux de naissance. Tous les juifs vont la porter. Sa subsistance demandait l'aumône. Mais ce jour-là, il y avait plus, quelqu'un de plus grand que tout ce qu'il avait connu auparavant. Et celui qui était plus grand, au travers de Pierre et Jean, il s'appelait Jésus de Nazareth. Regardez la suite. Ferme. Verset 8. De saut, il fut debout et se mit à marcher. Et ce qui m'a plu, c'est que se mettant à marcher, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il est entré dans le temple. Alléluia. Il est entré dans le temple. Il est entré dans le temple. Il est entré dans le temple. Il est debout, se mit à marcher. Il entra dans le temple, marchant, sautant et... Alléluia. Mais écoutez, moi, si je me retiens, je vais marcher, je vais sauter, je vais louer Dieu comme lui. Non, non, je ne le fais pas parce que personne ne dise, parce que gentil est un déséquilibré. Mais si vous dites que je suis déséquilibré, c'est là que je suis le plus équilibré. Sautant, dansant et louant Dieu. Où ? Dans le temple. Dans le temple. Il est entré dans le temple. C'était sa manière pour lui de remercier le Seigneur.
Il lui a rendu grâce. Jésus a loué celui qui est revenu, Samaritain. Ou s'est-il trouvé que c'est étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Pourquoi? Il est revenu, il s'est prosterné devant Jésus. Il a rendu grâce et puis il a loué Dieu. Lui, tout le monde le vit marchant. Donc, il est entré dans le temple avec Pierre et Jean, dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Où? Dans le temple. Mais ce n'est pas tout. Et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ça veut dire qu'il était connu avant. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et je les vois. Je vois leur attitude concernant ce qui se passe là maintenant. Mais c'est lui qui est à la porte du temple là. Eh bien tiens, il saute, il danse et loue Dieu. Mais où est passée son infirmité? Il est plus boiteux. Mais je crois que lui, sa manière de s'exprimer au travers le chant, la danse et la louange, ont fait que ceux qui l'ont vu, parce qu'ils le connaissaient avant, ont été conduits aussi à remercier Dieu pour ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire, Dieu est intervenu pour qu'au travers ce cas, que tous ceux qui étaient là auparavant, qui entraient dans le temple, connaissaient, peut-être même que parmi eux, il y avait ceux qui avaient donné une petite pièce dans une certaine circonstance. Mais là, maintenant, on le voit, ce n'est plus les mêmes personnes. Ils sortent, ils dansent et ils louent Dieu dans le temple. Ça veut dire qu'il est passé de la porte à l'autel. Alléluia. Oui, nous étions bien à la porte de la vie chrétienne. Nous étions à la porte du salut. Maintenant, Dieu nous a fait passer de la porte à l'intérieur de sa maison, au pied de Jésus. Et quand le maître nous voit, et qu'il lit dans nos cœurs. Qu'est-ce que Dieu lit dans ton cœur ce matin? Est-ce qu'il trouve l'action de grâce? Est-ce qu'il trouve la louange? Est-ce qu'il trouve de la reconnaissance? Et si j'osais, je vous amènerais, frères et sœurs en Christ, pour conclure, dans le livre du Lévitique, chapitre 3, verset 1er. Vous lisez comment Dieu parle à Moïse. En même temps qu'il parle du sacrifice d'action de grâce, qui était littéralement appelé dans l'ancienne alliance, défini comme l'offrande de paix, sacrifice d'action de grâce était défini comme étant l'offrande de paix. Il faisait partie des sacrifices dits de bonne odeur. Avec l'holocauste, avec l'offrande de farine, il y avait le sacrifice d'action de grâce. Et ce sacrifice-là, Dieu avait donné à Moïse des directives qui ont été érigés comme des lois qui accompagnaient les sacrifices. Ça veut dire qu'il fallait faire les sacrifices, mais il fallait les faire d'une certaine manière. Dieu disait qu'il fallait brûler les graisses qui accompagnaient le grand lobe du foie, les rognons, etc. Des directives particulières. Pourquoi? Parce que c'est lorsque les graisses brûlaient que ça faisait monter de la fumée. Et cette fumée, selon ce que dit l'Écriture, était aux narines de Dieu d'une agréable. Laissez-moi vous dire que lorsque vous prenez la graisse est différente du muscle. Ben oui, la graisse est différente du muscle. Dans le muscle, il y a la sensibilité, mais la graisse, il n'y a pas de sensibilité dans la graisse. Alors Dieu disait, il fallait brûler la graisse. Je veux dire que quand Dieu nous amène sur le terrain de l'action de grâce, il veut que notre cœur soit sensible à son. Et puis les sacrificateurs qui étaient concernés justement par ces sacrifices devaient être offerts, ils avaient pour nourriture deux choses. La poitrine de la victime et puis ses épaules. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur gentil? La poitrine? Mais ça veut dire que derrière le mot, l'expression la poitrine, Dieu veut montrer qu'il y a le cœur, ce qui est dans le cœur. Et puis l'épaule, c'est pour montrer que derrière l'épaule, il y a l'image de la force. C'est-à-dire, plus je mange la nourriture spirituelle, comme Jésus me l'a fait comprendre Claude, dans l'évangile de Jean, il a pu le déclarer, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Parce qu'il parle de sa chair qui est une nourriture et son sang qui est un breuvage. Sacrifice d'action de grâce, offrande de paix. Ça veut dire que derrière ce qui est mentionné ici, nous avons ce qui ressemblerait fortement aux définitions données par la Nouvelle Alliance en ce qui concerne la paix qui découle de l'œuvre de Jésus pour moi, pour toi, pour nous ce matin et qui est un tremplin pour nous pousser à remercier Dieu. Éphésiens 2:17, Jésus est venu annoncer la paix. La paix à ceux qui étaient près, mais aussi la paix à ceux qui étaient loin. Car par lui, nous avons tous accès auprès du Père, dans un même esprit. Éphésiens 2:17. Christ est devenu notre Père. Il est venu annoncer la paix, mais il est devenu notre Père. Et puis, dans Romains 5, verset 1er, la Bible nous parle. Une déclaration que fait l'apôtre. Ainsi donc, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès à cette foi, dans laquelle, cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et puisque j'ai la paix avec mon Dieu, l'apôtre dit, vous vous réjouissez même des épreuves. Il dit que l'épreuve, pour moi, n'est pas un problème. Je sais que si Dieu le permet dans ma vie, il poursuit un dessein. Et même si je suis éprouvé, je ne suis jamais abandonné. Mais au contraire, Dieu va utiliser l'épreuve pour mieux m'affermir, me faire grandir. Alors, où sont ceux ce matin qui ont la paix avec Dieu? Levez la main. Oui, Christ est venu annoncer la paix. Il est notre paix. Dans l'Ancien Testament, préfiguration non seulement de sa personne, mais aussi de son œuvre. C'est par lui ce matin que j'ai la paix avec Dieu. Vous avez dit au travers de son sacrifice, Dieu, dont le courroux était contre moi avant la conversion, maintenant il est apaisé envers moi. Mais il est obligé de considérer l'œuvre accomplie par Jésus. Le sacrifice de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Prions le Seigneur.